Allez, on se retrouve pour parler tout de suite des marchés. Alors, les marchés, cette semaine, bon, c'était moyen. Alors, give peace a chance, on n'a pas trop l'impression que c'est l'ambiance actuelle. On ne sait pas qu'est-ce qui est de l'info, de l'intox. Bon, les messages de Trump se multiplient et ne sont pas toujours les mêmes. Depuis le début de l'année, moi, ce qui me frappe quand même, et j'aimerais avoir vos avis, surtout l'avis des gérants, c'est quand même, avec il y a trois semaines, on était branchés sur n'importe quel tweet, on prenait 3%, on baissait de 3%, c'était la panique. Là, on a eu les Iraniens qui ont attaqué un bateau, un tanker. On a l'autre qui dit, Trump qui dit, il faut abattre tous les bateaux. Et puis le marché qui bouge pas. Qu'est-ce qui se passe en fait? Les investisseurs, on a même eu des records historiques.
Oui, tout à fait.
Donc, qu'est-ce qui se passe?
Le marché américain, en tout cas, il a clairement pricé la paix. Ça, c'est certain. Donc, évidemment.
Est-ce qu'il a pricé la paix ou est-ce qu'il a pricé ce que dit Emmanuel, c'est-à-dire le fait que, quoi qu'il se passe, de toute façon...
Il a pricé le fait que le conflit va s'arrêter prochainement et que tout va redevenir normal et que les forces qui poussaient le marché en ce début d'année, qui étaient bien réelles, c'est la croissance des bénéfices par action, c'est des banques centrales accommodantes, c'est des politiques budgétaires expansionnistes, que tout ça va revenir et on le voit quand même. Alors, il faut trier un peu les publications, mais dans les résultats des entreprises, c'est plutôt de bonne facture. Après, c'est un marché qui reste très nerveux, quelque part. Parce que
Mais pas tant que ça. Alors, franchement, cette semaine, j'ai été très surpris. Jusqu'à présent, je suis d'accord avec vous. Alors, cette semaine, j'ai trouvé que, et je suis assez d'accord pour une fois avec ce que dit Emmanuel, j'ai eu l'impression que les gens se disaient, bon, finalement, quels que soient les scénarios,
on va s'en sortir. Non, mais c'est pas nerveux dans ce sens, c'est plus nerveux dans la rapidité des mouvements, en fait.
C'est ça.
C'est dans ce sens.
Sur les titres.
Je vais vous donner juste quelques chiffres qui sont quand même assez incroyables. Alors, je parle de la semaine dernière, la semaine de bourse, la semaine dernière, le S&P avait effacé en 7 séances, toutes les pertes qu'il avait subies depuis le début du conflit a atteint un record. Le Nasdaq, 13 séances consécutives de hausse. On n'avait pas vu ça depuis 2013. Ouais. Avec Détroit d'Hormuz sous blocus, etc., etc. Et on est passé d'un marché de survendu à suracheté en 11 séances. Ouais. C'est quand même des statistiques qui sont assez dingues. Ouais. Et j'ajoute, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, on a rarement une telle dichotomie entre le sentiment dans l'économie réelle quand vous regardez le moral des ménages, des investisseurs et ce qui est en train de se passer sur les marchés financiers. On a vraiment un speed. Donc moi, ce que ça me dit, c'est que si jamais on n'arrive pas à ce scénario que le marché achète d'un conflit qui va se terminer, un pétrole qui va se stabiliser, attention à l'effet de retour.
Ouais, mais parce ça fait un moment qu'on dit ça.
Là, ce que ça a démontré sur les, en tout cas, les deux, trois dernières semaines, c'est que le marché est prêt à ce que le conflit se calme dans un futur proche.
André, vous achetez cette thèse-là? Moi, j'achète assez la thèse d'Emmanuel de dire, en fait, les marchés se disent, même si ça continue, finalement, on va s'habituer, on sait faire.
Alors, moi j'aimerais quand même parler d'une dichotomie entre les marchés européens et américains, parce qu'il y a deux moments, dans l'année. On est à 4 mois du début de l'année, jusqu'à fin février, donc c'était vraiment l'Europe au pinacle, et les États-Unis qui ne faisaient rien. Le CAC était à plus 5, plus 6, l'Eurostox, pareil. Et le S&P 600, le S&P 500 était à zéro. La guerre en Iran, bon, bien sûr, a fait chuter tout le monde dans un premier temps, mais ensuite, le rebond n'a eu lieu qu'aux États-Unis et pas en Europe. Et donc, c'est là où il faut, je pense, être assez précis, parce qu'aujourd'hui, on est à peu près à zéro.
Elle n'est pas précise.
Non, mais on est. Non.
J'ai précisé.
Elle a parlé des marchés US.
Elle est un peu à l'ancienne, non, Pascal aussi. Non.
Merci pour les femmes.
Non, André,
c'est la boussole.
Voilà. Donc, on est aujourd'hui à plus 3 year to date aux États-Unis, alors qu'on est retombé à zéro en Europe. Ouais, voilà où en sont les marchés. Et alors, c'est là où j'en suis. La situation, elle intéresse peut-être un peu moins les médias, parce qu'on est dans une espèce de ni paix ni guerre. Donc, c'est un état instable, avec quand même, je pourrais dire, un président américain qui, lui, regarde la bourse, comme on le sait, et qui voit qu'aujourd'hui, le grand gagnant de la guerre, c'est les États-Unis. Les grands perdants, ce sont surtout les pays émergents, ensuite l'Asie, et ensuite, dans une moindre mesure, l'Europe, qui est aussi à la marge perdante, quand même. Et donc, alors, bien sûr, les prix du pétrole ne sont pas bons pour les ménages américains. Ah oui. Donc, c'est clair.
Ça, c'est clair, quand même.
Ceci dit, les indices au plus haut, ce n'est pas une incitation extrêmement forte pour lui à faire des concessions. Alors, après, est-ce que c'est une incitation pour lui à faire de l'escalation? On n'en sait rien. Mais aujourd'hui, les marchés sont plutôt dans un état un peu instable. Mais cette situation génère des anxiétés et des crises, et je vais vous en livrer une sur un secteur qui était avant au pinacle et adulé par les marchés, parce que non disrupté IA, c'était tout ce qui concernait l'aviation, les motoristes, voilà, ça, c'était un secteur qui était au top de la valorisation boursière. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les prix du pétrole qui montent? Les prix du kérosène d'aviation ont monté encore plus, et parfois dans certaines zones mondiales, en Asie, ils sont même encore plus chers qu'en Europe. Et donc, on a des annulations de vols, donc destruction de la demande. On a aussi des compagnies aériennes qui sont obligées à augmenter leurs prix. Donc, ça fait des réservations en moins. Et donc, vous voyez, toute la chaîne est pénalisée. Les compagnies d'aviation sont pénalisées. Donc ensuite, les motoristes aussi qui assurent la maintenance, qui sont un peu les fournisseurs, sont pénalisés. Voilà un secteur qui était au sommet de tout et qui souffre quand même de cette situation. Donc il ne faudrait pas que ça dure très longtemps, sinon ça pourrait être un derating plus prononcé.
Valentine, un élément essentiel pour les marchés, c'est évidemment l'évolution des taux d'intérêt.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qui price le marché aujourd'hui, vous pensez, sur les taux d'intérêt?
C'est une histoire quand même assez différente de ce qui se passe sur les marchés actions. Moi, ce que je trouve sur les marchés actions, la bonne tenue des marchés actions, pour moi, c'est le scénario de risque, le scénario du pire, dont la probabilité a énormément chuté avec l'annonce du cessez-le-feu. Même si ce cessez-le-feu est fragile, énormément discuté, il y avait quand même ce scénario du pire où on avait vu Donald Trump qui menaçait de renvoyer l'Iran à l'âge de pierre en détruisant toutes les infrastructures énergétiques. Il y a la probabilité de ce scénario, qui est quand même un scénario catastrophe, qui a énormément diminué. Donc ça, pour moi, c'est ce qui amène une bonne stabilité sur les marchés actions. Mais on voit que les marchés taux sont un peu à l'ancienne, les marchés taux, beaucoup plus prudents. Et les marchés taux, ils sont toujours surtout, ils anticipent toujours beaucoup de hausses de taux des banques centrales. On est toujours sur trois hausses de la BCE.
Donc vous dites que les marchés taux et les marchés d'actions sont déconnectés, c'est ça?
Pour moi, je trouve qu'il y a quand même une certaine déconnexion avec des marchés taux qui sont quand même sur une histoire où il va y avoir de l'inflation, les banques centrales, on est toujours sur un choc d'inflation, un choc de taux, hein, les banques centrales vont devoir réagir. Et c'est pas encore l'histoire, je trouve. Et je trouve que c'est ce risque croissance, parce qu'il y a quand même un risque croissance, et on est tous d'accord autour de cette table, il y a un risque croissance si les banques centrales montent leurs taux, qui n'est pas aujourd'hui valorisé par le marché actions.
Je suis pas sûre de ça. Moi je pense que le marché actions a accepté le fait, a anticipé le fait qu'il allait potentiellement y avoir des hausses de taux en Europe.
Ah bon?
Ouais. Mais trois hausses de taux.
Oui, parce que les taux ont déjà accusé le fait. Enfin, Valentine le sait mieux que moi, mais les taux sont déjà montés en fait.
Les taux à long terme.
Au long de la courbe. Oui. Mais c'est des anticipations aussi de hausses de taux à plus court terme.
Peut-être. Mais après, je me dis que si la BCE commence à monter trois fois ses taux, quelles vont être après les anticipations? Comment vont évoluer les anticipations?
Pour moi, c'est un cauchemar d'entendre ça. Si la BCE
monte trois fois ses taux. Oui, mais le marché aujourd'hui, le consensus, c'est sur une hausse de taux de la BCE.
Croissance pour moi. Enfin, c'est.
Emmanuel, c'est quoi votre vision quand vous regardez ça un peu, les marchés, ça vous inspire quoi? Vous dites, les gars, ils sont vraiment dans une autre bulle. Je sais que vous pensez que les traders, ils vivent dans un monde parallèle.
Non, mais juste d'abord, une petite parenthèse, parce que c'est important pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Et c'est ça qui fait la richesse des discussions, c'est qu'on ne parle pas du tout du même endroit avec Pascal, Valentine et moi. C'est-à-dire que Pascal et Valentine, elles représentent des très grandes maisons qui gèrent des montants considérables. Chacun de leurs mots compte. C'est-à-dire, moi, je suis un feu follet. Je me permets d'agiter des idées. Donc, c'est pour ça que.
Mais ce qu'il faut pas entendre.
Non, mais la réalité, c'est que c'est normal qu'elle se repose sur des scénarios solides, plutôt mainstream, en fait, entre guillemets. Et moi, je vais plutôt sur les scénarios qui sont un peu.
D'accord. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Moi, je pense que bonne tenue des marchés, c'est pas tant que ça des paris sur la guerre, la paix, etc. C'est une forme d'indifférence que moi j'appelle plutôt de la résilience.
Ouais, je trouve
c'est
ça.
C'est une confiance.
Je suis assez d'accord avec
dans
vous.
Une capacité
vous m'avez convaincu.
À être résilient sur un choc qui, s'il n'était pas convaincu. Énergétique, resterait un choc géopolitique régional. Franchement, s'il n'y avait pas cet effet énergie. Donc là-dessus, et puis sur les taux. Je continue à pointer il y a quelque chose que je comprends toujours pas dans le raisonnement de Valentine entre parce que elle nous dit il y a un risque récession et un coup il y a un risque inflation.
Bah oui, je comprends.
Et du coup, je comprends pas en fait si tu as un risque récession, tu peux pas avoir un risque inflation. Sauf si tu as un énorme
en deux
choc.
Temps, c'est une question de séquence, les deux n'arrivent pas en même temps, c'est une question de séquence. Aujourd'hui, il y a un risque inflation. On a des banques centrales qui qui peuvent monter leurs taux. Pour moi, on est dans un environnement de croissance qui est fragile. Et si les banques centrales, aujourd'hui, montent les taux, on a un risque de croissance.
C'est là où on n'est pas d'accord, c'est que je pense que c'était l'erreur, elle était compréhensible pour deux raisons en 2022. C'est parce que c'était un vrai choc d'offres et qu'on était dans une période ascendante.
Et c'était une erreur.
Valentine l'a dit tout à l'heure, 3 millions d'emplois.
Bon, donc voilà. Vous continuerez le débat tout à l'heure.
Et la deuxième raison pour laquelle les taux avaient beaucoup monté, c'est qu'il y avait, enfin, en gros, on n'avait pas vu de choc inflationniste depuis les années 70. Et donc, ils avaient réagi à l'ancienne. Alors que là, on a quand même l'expérience de 2022. On n'est pas sur la même trajectoire économique. Donc,
pour une
moi,
fois,
je
suis d'accord avec Emmanuel.
Absolument pas à ces trois ou deux.
Allez, on va passer tout de suite.
Scénario que le prochain mouvement de la BCE, ce sera pas une hausse, ce sera une baisse.
Moi aussi. Allez.
Je dis que j'achète ton scénario.